Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé.
La cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris aura lieu le 26 juillet prochain, mais déjà, il y a des craintes au niveau de la sécurité, à un point tel que la France est en état d'alerte terroriste. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane.
Salut Alexandre. En fait, la France est toujours en état d'alerte terroriste. C'est le degré d'alerte qui change selon les saisons.
Et là, c'est au maximum.
On l'a relevé d'un cran.
Ouais. Depuis les attentats en Russie.
Exactement. Il y a un lien de corrélation parfait. D'ailleurs, le président Macron qui disait que l'État islamique Khorasan avait aussi eu l'intention de frapper la France, que deux attentats avaient été déjoués dans les derniers mois. C'est donc dire qu'ils sont dans le collimateur des autorités françaises comme d'autres groupes terroristes le sont évidemment. La France a été plus d'une fois victime d'attentats plus que déplorables. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici on parle dans le cas de ce qui s'est passé vendredi du Bataclan russe, parce que quelque chose de très semblable s'est produit ici au Bataclan. Donc on élève le niveau de la sécurité, des militaires sont déployés, il y en a toujours qui sont déployés un peu partout en France et à Paris. Puis là on en ajoute quelques milliers de militaires pour sécuriser la France et les Français qui sont certainement inquiets. Alors qu'on parle de déployer des soldats en Ukraine, on est d'abord à déployer des soldats sur le territoire national pour livrer cette guerre au terrorisme, parce que c'en est une quand on écoute le discours des politiques. Et un paradoxe amusant, une main tendue à Vladimir Poutine, le président Macron, qui dit dans cette lutte justement à l'État islamiste Khorasan, on est prêt à collaborer avec vous, à échanger de l'information, du renseignement, faire en sorte que nous soyons à tout le moins sur ce front-là, solidaire, un discours qui contraste quand même avec ce que le président Macron dit depuis quelques semaines, qui voit toujours la Russie comme non pas l'ennemi à abattre, mais l'ennemi à stopper. Et tu le disais, c'est un niveau d'alerte qui est augmenté dans un contexte où très bientôt, on parlera beaucoup de Jeux olympiques et de Jeux olympiques qui vont se faire un peu différemment à Paris parce que la cérémonie d'ouverture va se dérouler en fait sous ma fenêtre, à quelques mètres sur la Seine, sur quelques kilomètres sur la Seine, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans un lieu plus facilement sécurisable, qui est un stade olympique. Donc, c'est une cérémonie différente, atypique, à ciel ouvert. Déjà, les mesures de sécurité ou une idée des mesures de sécurité ont été annoncées. L'espace aérien va être fermé pendant un certain nombre d'heures avant, pendant et après la cérémonie d'ouverture. On a réduit le nombre de gens qui pourront y assister. Au départ, on parlait, je pense, de presque 500 000 spectateurs. On est à 300 000 quelques. Ça va devenir un véritable sas de sécurité. Les accès aux berges vont être hyper contrôlés. Tout ça, évidemment, parce que c'est un événement qui rendra la France et son image de marque extraordinairement vulnérable à une attaque. Une attaque qui, on l'a vu, s'organise, je ne dirais pas facilement, mais certainement plus facilement dans des pays comme les nôtres où on n'a pas vocation à barrer toutes les rues et à interdire les accès à ceux qui se rendent dans de pareils événements. Quoique là, pour la cérémonie d'ouverture, évidemment, il faudra montrer patte blanche. Il y aura des codes QR. Et c'est intéressant quand je faisais tout à l'heure le parallèle entre la main tendue pour lutter contre le terrorisme à Vladimir Poutine. En même temps, il y a aussi une guerre symbolique qui se fait pendant les Jeux olympiques. On sait d'ores et déjà que les athlètes russes ne pourront pas participer à la cérémonie d'ouverture, sont interdits de présence. Il y en aura d'ailleurs très peu de ces athlètes russes qui auront le droit de participer aux Jeux olympiques. On parle d'une poignée d'athlètes, une toute petite délégation qui ne pourra pas d'ailleurs porter les couleurs du pays. Ça sera le comité olympique russe, ça sera le drapeau du comité olympique russe qui sera arboré plutôt que le drapeau russe. Parce qu'évidemment, d'abord, les pratiques dans le monde sportif de la Russie sont montrées du doigt. Et toujours le conflit en Ukraine qui pose sérieux problèmes. Alors, si on peut se réjouir de ce qu'il y aurait une victoire ukrainienne contre la Russie, c'est une victoire symbolique. La bataille de la Seine, S-E-I-N-E, a été emportée par l'Ukraine qui a réussi à faire en sorte que les athlètes russes ne puissent pas défiler lors de la cérémonie d'ouverture. Mais c'est une mince consolation quand on sait que sur le front, celui de la vraie guerre, où les morts se comptent en centaines et en milliers, mais pour l'Ukraine, ça va pas nécessairement très bien. Mais à tout le moins, cette bataille symbolique, pour l'instant, peut-être donner quelques sourires à Kiev, mais j'en doute.
dans le conflit entre le Hamas et Israël, Stéphane. Ben finalement, on l'a, la résolution de l'ONU demandant un cessez-le-feu.
Oui, je ne sais pas ce que ça va signifier sur le terrain. Est-ce que tu es optimiste que ça puisse changer les choses vraiment, toi?
Ben, parce que là, on a une fissure là entre les États-Unis, Israël. Moi, j'ai bien hâte de voir aussi la réaction de Netanyahou. Pour sûr que ça va l'apaiser.
Alors, la réaction, on la connaît, hein, parce que immédiatement, quand il a appris que les États-Unis n'avaient pas bloqué cette résolution, ce qui fait que la résolution est passée, on s'entend, c'est les 10 pays non membres du Conseil de sécurité, non membres permanents du Conseil de sécurité qui ont présenté cette résolution, et 4 des membres permanents, donc la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France ont voté en faveur, les États-Unis se sont abstenus parce que ce cessez-le-feu n'était pas lié à une libération immédiate des otages détenus par le Hamas et ne condamne pas non plus le Hamas pour les attaques du 7 octobre. Les États-Unis là-dessus voulaient absolument que ça soit fait. Alors, on demande la libération dans la résolution qui a été déposée, on demande la libération des otages, mais le cessez-le-feu n'est pas lié à ce qu'il soit libéré. Et c'est un cessez-le-feu temporaire pour les quelques semaines qui restent au Ramadan, dans l'espoir que ça puisse servir de base à un cessez-le-feu plus permanent. Or, les États-Unis, hier, ont décidé, à la surprise de plusieurs, de ne pas empêcher le passage de la résolution, ce qui donne à penser effectivement qu'il y a un peu de rififi entre Israël et les États-Unis, même si le porte-parole du Conseil national de sécurité du président Biden, M. Kirby, disait « Sur le fond, notre politique n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas un ray de lumière qui passe entre les Israéliens et l'administration Biden. » Or, il y a quelque chose comme un petit ray de lumière parce que M. Netanyahou, quand tu disais « On connaît pas exactement ce que sera sa réaction », il a demandé une délégation qui devait se présenter à Washington, délégation israélienne, de ne pas partir, de ne pas aller rencontrer les interlocuteurs à Washington.
Et sa réaction militaire.
Alors, réaction militaire, tu as raison. Je pense que pour l'instant, il est clair que M. Netanyahou, en tout cas, et son gouvernement, n'ont pas l'impression de vouloir appuyer sur le frein. La pédale douce n'est pas la vitesse qui est pour l'instant suggérée. Et je dirais que cette fracture symbolique entre Tel Aviv et Washington a été hier un point peut-être tournant pour les communications de la Maison-Blanche, qui jusqu'à maintenant disaient « on perd patience », mais n'étaient pas encore prêts à agir. Là, ils ont posé un geste qui, à défaut d'être conséquent, marque une rupture de ton. Mais quand on voit ce qu'est en général la réaction de ce gouvernement aux admonestations de Washington, on peut effectivement se demander si ça va peser très, très lourd. La semaine dernière, on a fait en sorte, puis je suis convaincu que c'est pas un hasard, que quand M. Blinken était en Israël pour discuter d'un certain nombre de choses, y compris d'un possible cessez-le-feu, de ce qu'il ne fallait pas pour l'instant, sinon jamais s'attaquer à Rafah, où sont réfugiés 1 million de Palestiniens. Ce jour-là, précisément, les Israéliens annonçaient qu'ils allaient saisir 800 hectares en Cisjordanie, dans la vallée du Jourdain, pour y développer des colonies d'habitation. Alors, c'est contraire à ce que les Américains demandent à répétition, à ce que la communauté internationale demande aussi à répétition. C'était une provocation parfaitement calibrée, un camouflet qui disait à M. Blinken et aux Américains, et vous pouvez nous parler, nous agissons. Et c'est en termes de saisie de territoire en Cisjordanie la plus importante depuis 1993, depuis la signature des ententes d'Oslo. Alors, est-ce que, pour revenir à ta question, sur le terrain, à Gaza, les Israéliens seront tentés d'y aller plus doucement? Je ne pense pas.
On en parlait, toi et moi, dans un autre épisode. C'était un gros lundi pour Donald Trump. Et là, il a vu le montant de sa caution être considérablement diminué là, à New York.
Je te vois sourire. Effectivement, changement de registre, c'est autre chose. Cette campagne électorale américaine qui se fait pour beaucoup devant les tribunaux. Grosse journée hier pour M. Trump. En fait, toutes les journées sont des grosses journées pour M. Trump. On pourrait avoir une chronique non-stop des déboires ou des bonnes nouvelles pour M. Trump. Moi, je suis tenté de penser que s'il avait fallu qu'il soit éreinté par la justice new-yorkaise et qu'il n'y ait pas de jugement qui lui soit, entre guillemets, favorable, je peux pas imaginer qu'il se soit régalé d'être saisi, parce que c'est ce qui se serait passé. Il n'y avait pas le montant qu'on lui demandait de déposer en guise de caution, plus de 550 millions de dollars. Alors, est-ce qu'il aurait voulu être saisi par Letitia James, par les procureurs à New York? probablement pas voir un de ces immeubles remis aux mains de la justice, ses comptes de banque saisis. Mais en même temps, pour le message de M. Trump, ça aurait été formidable.
Il aurait fait du judo avec ça.
Plus que du judo, je pense qu'il aurait été capable de transformer ça en pré-victoire électorale, parce que c'est dans le discours de M. Trump, faut voir ce que ça signifie. C'est dans un État très démocrate, New York, dans une ville uber démocrate, New York City, un procureur démocrate ou une procureure dans ce cas-ci, Madame James, avec un juge démocrate qui était aux manettes et qui me condamne à payer une amende de 454 millions de dollars, mais en attendant, une caution de 550 qui doit être déposée. Ça aurait été, pour M. Trump, absolument extraordinaire. Je suis certain qu'il s'est satisfait d'avoir à déposer seulement 175 millions, parce qu'on a découvert entre-temps que le milliardaire n'était pas aussi riche qu'il le disait, en tout cas de manière liquide. Il n'y avait peut-être pas le cash qu'il fallait. Alors, il y a 9 vies, M. Trump. Quand on pense que c'est fini, c'est pas fini. Hier, dernière minute, le juge qui présidait justement, celui-là même qui a imposé les amendes, dit « Bon, en attendant l'appel, on pourra se contenter de 175 millions. » Et par ailleurs, aussi un développement important, le juge, dans une autre affaire, celle de Stormy Daniels, a confirmé que malgré qu'il y ait de nouveaux documents déposés en preuve dans l'affaire, on ne donnera à l'équipe de M. Trump que quelques semaines pour se préparer. Le procès va commencer le 15 avril. Évidemment, il, au pluriel, les avocats et M. Trump auraient préféré que ça se fasse dans 2 mois, dans 3 mois, encore une fois, pour gagner du temps. Ce qui veut donc dire que la campagne électorale américaine pour le candidat républicain, ça va se dérouler au tribunal à partir du 15 avril parce qu'il est tenu d'être présent tous les jours du procès.
Et qu'est-ce que tu nous proposes à Contact, Stéphane, cette semaine?
C'est un épisode qui, je pense, va faire beaucoup de vagues. C'est un des sujets les plus divisifs et fâcheux. Il y a 4 ans, peut-être t'en souviens-tu, le 13 mars, c'était le début du confinement au Québec. La planète entière était en train de se fermer. J'ai l'impression qu'on est en face d'une espèce de névrose que nous avons vécue, mais qui est aujourd'hui refoulée. On veut pas trop en parler. C'est un souvenir qu'on n'espère pas avoir à soulever trop. Et les paroles dissidentes ont souvent été, fermement réprimées. On se souviendra de ce qui est arrivé avec le docteur Raoult, qui avait une opinion différente de ce qu'était l'opinion de la majorité d'entre ses collègues. Alors moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui aussi est un dissident, tu me diras quelle surprise à Contact, le docteur Christian Perron, qui était un grand spécialiste, qui est toujours un grand spécialiste en infectiologie, qui a été le conseiller du gouvernement français à répétition pendant des années sur des comités de santé publique, qui en matière de vaccination aussi a été conseiller de l'Organisation mondiale de la santé pour la politique vaccinale en Europe, et qui en matière de pandémie était l'homme à qui on voulait parler pendant de nombreuses années au gouvernement français jusqu'à ce qu'il change d'opinion à la faveur de cette pandémie. Alors je lui avais déjà parlé en juillet 2020. Il a écrit 3 livres en soulignant ce qu'on avait pour lui caché aux Français et par extension, je dirais, aux citoyens un peu partout dans le monde qui ont vécu mutatis mutandis les mêmes mesures en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, qui est d'ailleurs venu témoigner au Canada une commission citoyenne sur la COVID. Donc Monsieur Perron, qui aujourd'hui est retraité, mais qui n'a pas la langue dans sa poche, qui m'a à bien des égards surpris, et même je te confierais, avouerait que des fois j'aurais préféré qu'ils ne disent pas certaines choses, parce que je me suis dit, non, dites pas ça. Non, mais je fais très attention. Je respecte parfaitement sa parole. Sur certains trucs, je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Mais j'étais tenté de lui dire, quand vous me dites que la liberté d'expression n'existe plus chez nous à telle enseigne que s'il le faut, je déménagerai en Russie. C'est rare qu'on entend ça. Alors, peut-être a-t-il raison, j'en sais rien, j'ai une opinion différente sur ces enjeux-là. Moi, je suis pas prêt à aller faire ma vie à Moscou pensant que j'aurai plus de liberté d'expression là-bas, mais il y en est là. Je lui ai posé des questions aussi, ses positions l'ont certainement pas rendu sympathique aux yeux de tous. Il dit oui, compris dans ma famille, par moments, ça a été difficile, mais il préfère dire ce qu'il a à dire que de se taire, et comme il dit, plutôt crever que de ne pas dire la vérité. Sa vérité, si tu veux, on peut peut-être en écouter un extrait, parce que ce qui s'est passé avec le professeur Perron est intéressant. Quelqu'un qui était un prophète chez lui, est devenu un charlatan du jour au lendemain.
Allons-y, extrait.
Parce que dès qu'il y avait une crise, une épidémie, une crise vaccinale, j'étais sollicité. Tous les gens dans les divers gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils m'adoraient. Les journalistes m'adoraient. J'étais invité régulièrement sur les plateaux de télévision, au journal de 20 heures. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que du jour au lendemain, quand j'ai continué à dire la vérité, c'était quasiment du jour au lendemain, j'ai basculé dans la trappe des charlatans. J'étais devenu du mec super qui était capable de conseiller les ministres, qui avait un super CV, une super expérience que tout le monde appréciait. Et d'un seul coup, voilà, on m'a jeté à la poubelle.
Je pense que les réactions sont nombreuses.
Alors, parole dissidente, j'en conviens, qui va certainement bousculer pour d'autres les rassurer, parce qu'on le sait, il n'y a pas beaucoup de nuances. Il y a ceux qui t'expliquent qu'il y a une conspiration absolue. Et je dirais que le docteur Perron, à certains égards, accepterait l'étiquette. Lui est convaincu que la crise de la COVID a été, d'une certaine façon, anticipée, sinon prévue. Voilà un point de vue. Pour quelqu'un qui occupait la place qu'il occupait dans l'échiquier politique et médical français, c'est pour le moins surprenant. Je suggère qu'on l'écoute, évidemment, parce qu'il y a, entre autres, sur la pratique de la médecine moderne, une opinion catégorique, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus des patients, les médecins ne prennent plus le temps de parler avec les patients, d'établir un diagnostic en échangeant avec leurs patients. Et un des grands responsables, pour lui, c'est la corruption de la médecine au plus haut niveau par l'industrie pharmaceutique qui est capable d'acheter beaucoup de complaisance. Encore une fois, je le répète, c'est une entrevue qui va choquer certains, qui va peut-être conforter d'autres, mais qui ne laissera personne indifférent. J'ai très hâte de voir d'ailleurs combien de temps YouTube va nous permettre de continuer à diffuser l'entretien.
Et l'ombudsman de Cube est sur la...
De Cube, qui est au téléphone. Ben écoute, tu me l'enverras, j'ai déjà composé avec ça. Je pense que... Mais t'as raison de souligner, parce que c'est un peu le réflexe, on se dit, il y a quelqu'un qui va le faire taire ou on va remettre à l'ordre les choses. Je pense que c'est au contraire, si on veut se convaincre que justement c'est ce qu'il ne faut pas entendre, encore faut-il être capable d'écouter et de savoir ce que sont les arguments. Mais je pense que c'est au cœur de ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'entendre des points de vue qui peuvent nous déranger, de les contrer. Je ne suis pas d'accord et je ne suis pas d'accord en tout, mais surtout d'être respectueux et de faire entendre ces voix-là qui sont de plus en plus rares et filtrées. Puis évidemment, si on s'arrange avec l'idée que cette parole doit être filtrée, c'est quand on va se réveiller en constatant que quelque chose qu'on croit n'est plus audible, qu'on va se dire « Ah, est-ce que j'ai coupé la branche sur laquelle j'étais assis? »
Salut Stéphane, ça va être à écouter, c'est clair. À très bientôt.
Ciao.